ça reste quand même quelque chose d'assez fort de penser qu'aujourd'hui, avec toute l'histoire de la Bolivie, bah que oui, c'est un Indien qui dirige ce pays. Voilà, ben je suis Aymara, je suis Quechua, et en plus j'ai un président qui me ressemble.
Durant son voyage en France, Varinha, une amie bolivienne, conservatrice au musée d'ethnologie de La Paz, a voulu témoigner sur la situation politique de son pays, qui a la particularité d'avoir élu un président amérindien, Evo Morales. Elle nous a rappelé brièvement le parcours d'Evo Morales, issu des mouvements sociaux et syndicalistes, un des plus grands représentants des défenseurs de la COCA, qui entre en politique en 2003, quand il a été élu au Sénat, comme représentant du mouvement pour le socialisme, le MAS. Cette même année, de violents conflits ont éclaté au sujet des hydrocarbures et la figure forte d'Evo Morales a émergé. La Bolivie a alors connu une période troublée où plusieurs présidents se sont succédés et ont dû démissionner. En demande d'une réelle représentativité, le peuple a élu Evo Morales en 2005 avec 53% des voix. Cette élection a introduit une rupture à plusieurs titres. D'abord, c'est exceptionnel en Bolivie qu'un président soit élu à la majorité absolue. Et comme il n'y a pas de deuxième tour, le président était jusqu'alors le fruit de coalitions et d'arrangements. Ensuite, parce que jusqu'à maintenant, c'était les partis traditionnels historiques qui enchaînaient les présidences. Par contre, aux élections sénatoriales qui ont lieu en même temps, et bien que le MAS soit arrivé en tête, il lui manque 2 sièges pour avoir la majorité absolue. Les autres partis traditionnels s'unissent, d'où les difficultés de Morales pour faire passer ses lois, car le vote se joue à 2 voix, plutôt en sa défaveur. Indios Presidente, avec Varinha, décembre 2008, une émission proposée par Radio Zinzine. L'entretien que nous vous proposons d'entendre a été enregistré dans nos studios le 8 novembre 2008 et on commence par parler avec Varinha de la réaction violente qu'opposent les départements les plus riches de la Media Luna à l'élection d'Evo Morales.
Sí, paralelamente a las elecciones de presidente, por primera vez también entramos a una elección de prefectos en los 9 departamentos en que estamos repartidos.
Donc, en parallèle a ces élections, il y a une autre élection qui se fait, qui est celle des préfets, sur 9 départements que connaît la Bolivie.
Y van a ser estos prefectos, bueno, principalmente los conocidos como la Media Luna, que son la parte del Oriente, Chaco y Amazonía y parte de los valles que van a ser fuerte oposición pues al gobierno.
Donc à l'issue de ces élections là, on se retrouve donc avec une configuration où ce sont les préfets de cette région là, donc de la Media Luna, qui est la partie est de la Bolivie, donc la partie qui n'est pas andine. Suite à ces élections là, on va voir donc cette opposition géographiquement se situe là, opposition au gouvernement de Morales.
Es principalmente en Santa Cruz que surgen, por ejemplo, los primeros pedidos de autonomía e instrumentalizados desde la prefectura y el comité cívico interinstitucional.
Donc c'est depuis la région et la ville de Santa Cruz que commencent à naître les premières revendications d'autonomie, en particulier depuis les comités civiques et toute la propagande qui se met en branle, qui se met en place autour de cette exigence.
Van a acompañar a este departamento ciudades como Beni, Pando, Tarija, y Sucre son ciudades donde principalmente hay problemas de tierra, porque son los prefectos, especialmente el de Pando, el que era propietario de la mayoría de las tierras de esta ciudad.
Et donc, après le démarrage de Santa Cruz, ce sont les autres régions voisines qui s'inscrivent dans cette même dynamique de revendication d'autonomie. Donc, Pando, Beni, Tarija, toutes les régions en fait, de la Media Luna suivent l'exemple de Santa Cruz et avec un point commun qui achoppe, qui est celui de la terre. Parce que par exemple, sur Pando, c'est une des régions où il y a les plus grandes exploitations agricoles, quoi, terriennes. Quoi.
Estos grupos han sido los que han sido los que han hecho oposición principalmente al gobierno porque se estaban empezando a tocar temas sensibles para ellos en lo que era la elaboración de la nueva reforma constitucional.
Donc c'est parti de là en particulier donc sur toutes ces régions et sur le point de la terre puisque une des questions de fond c'était quand même derrière tout ça la question d'une réforme agraire portée par le gouvernement.
Porque ha habido hace años, mucho más antes, ha habido reclamos de los pueblos indígenas, porque tenemos 36 pueblos indígenas en Bolivia y la mayoría de los de estos pueblos están en estas zonas, principalmente del oriente y en la Amazonía. Entonces estos pueblos han sido expropiados de sus tierras y en la nueva reforma de la Constitución se estaba tocando estas tierras, este tema, el territorio, ¿no?
Ces revendications au droit à la terre étaient déjà plus anciennes, et en particulier portées par les peuples indigènes, qui sont au nombre de 36 en Bolivie. Et du coup, le fait de revenir sur cette revendication et de l'intégrer dans le projet de la Constitution, c'était un point de défense sur lequel le conflit s'est structuré.
Antes, en los otros gobiernos, por ejemplo, no se escuchaba el tema de la autonomía. Jamás habían pedido estos grupos autonomía porque sus intereses estaban pues protegidos con los anteriores gobiernos, ¿no? Y es a partir de este gobierno que empiezan con el tema de la autonomía, que es una autonomía departamental, que es el separarse completamente pues de lo que es Bolivia.
Et donc la question de l'autonomie exigée par ces régions-là, c'était un sujet qui jusqu'à maintenant n'avait jamais été réclamé sous les gouvernements antérieurs. Pourquoi ? Parce que ces mêmes gouvernements en fait protégeaient les intérêts de ceux qui dirigent et voilà.
Porque precisamente por la repartición de estos ministerios cuando hacían coalición, entonces estos grupos minoritarios protegían sus intereses, ¿no? Que era la cuestión de la tierra e inclusive de las petroleras, ¿no?
Donc les groupes dirigeants de cette région, de toute façon, ont toujours su protéger leurs propres intérêts, que ça soit lié à la terre, à son exploitation ou sur les ressources type pétrole, et exploitation et gestion.
Sí, es increíble en Santa Cruz, a partir de lo que es esto de la autonomía y la organización del comité cívico, surge un grupo, sí, instrumentalizado desde la derecha, que es la Juventud Cruceñista.
Ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, autour de cette question de l'autonomie et des revendications portées au départ par Santa Cruz, donc des groupes, des comités civiques s'organisent. Et un en particulier, qui est la Juventud Crucianista, c'est-à-dire le mouvement de la jeunesse pour Santa Cruz.
Es un grupo que constantemente ha actuado, por ejemplo, con ideología tremendamente fascista. Van con en los coches con esvásticas nazis, por ejemplo, y han sido los que más han golpeado a los indígenas en Santa Cruz. Son los que han venido haciendo muchas marchas en contra de lo que es el gobierno y se han armado en un grupo muy, muy fuerte. Este grupo también ha ido hasta Sucre a apoyar lo que ha sido la manifestación del 24 de mayo cuando Evo Morales iba a entregar ambulancias a los indígenas allá.
Ces groupes-là, en fait, agissent de manière organisée, structurée, en portant, sans se cacher, une idéologie fasciste. En fait, ils n'hésitent pas à arborer des signes néo-nazis sur leurs véhicules ou voilà, pendant les manifestations auxquelles ils ont participé, dont une, donc celle à Sucre, au mois de mai, qui est en fait le point de départ d'un conflit très sanglant, puisque c'était donc à Sucre que Evo Morales devait remettre officiellement des ambulances. Et donc ces groupuscules-là sont venus jusqu'à Sucre pour... Bon, ça c'est moi qui le rajoute, mais pour casser l'Indien, quoi.
Il faut peut-être rajouter quelques précisions sur cet événement du 24 mai 2008 où Evo Morales n'a pas pu venir participer aux festivités prévues pour la célébration de l'indépendance compte tenu du climat d'extrême violence qui règne dans cette région. Les paysans, membres des communautés amérindiennes qui s'y sont présentés, ont été roués de coups. 55 d'entre eux ont été pris en otage, obligés à se mettre torse nu, à marcher les mains attachées, à se mettre à genoux, embrasser le sol, pendant que leurs drapeaux, insignes et vêtements traditionnels étaient brûlés. On a imposé à d'autres d'absorber des excréments de poulets. Alors qu'on a dénombré plus de 50 blessés dans un état grave, certains médecins ont refusé de leur prodiguer des soins.
Se sabe que este grupo está financiado por el comité cívico, la prefectura, donde sí está Leopoldo Fernández, Franco Marinkovic, que son los principales propietarios de tierra y de gran agroindustria también de la zona, ¿no?
On sait que en fait ces groupes-là sont financés par les comités civiques qui émanent directement de la préfecture.
Y es un grupo de choque y de protección a estos grupos y de ataque principalmente a lo que es el Plan 3000 en Santa Cruz, que es un grupo principalmente de migrantes, collas, aymaras en Santa Cruz, que hacen pues Fuerza Evo, ¿no? Que son de apoyo al gobierno de Evo Morales en Santa Cruz.
Donc ces groupes-là, en fait, sont organisés pour des groupes de choc, d'intervention armée, quoi, et paramilitaires, des milices, et ils se retrouvent donc en conflit avec un autre groupe qui est le Plan 3000 et qui en fait regroupe du côté de Santa Cruz une population ayant immigré des autres régions de la Bolivie, qui regroupe principalement des Coyas, donc en fait des Amérindiens, des indigènes de la partie andine, et qui eux donc appuient ouvertement le gouvernement de Morales, quoi.
Una de las manifestaciones de este grupo de la Juventud Cruceñista y el Movimiento Cívico de Santa Cruz, por ejemplo, ha sido atacar instituciones del Estado, como el Ministerio de Tierras que había en Santa Cruz, donde están todos los papeles de las posesiones de tierras, han destruido todo pensando que al destruir los papeles no iba a haber documentación de quién tiene la tierra en Santa Cruz.
Une des activités de ce groupe donc de la jeunesse de Santa Cruz, là, c'est par exemple rentrer et saccager des bureaux de l'État officiel, tout ce qui peut représenter le pouvoir. Et donc un exemple que donne Varinha, c'est comment en fait ces néofascistes sont rentrés dans le bureau qui administre tout ce qui est les papiers concernant la gestion de la terre et tous les documents en fait d'actes de un petit peu l'équivalent du CANAS. Et précisément en fait ils ont fait ça en brûlant tout pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune trace concernant qui administre quoi.
Moi, j'aimerais savoir s'il y a des liens entre ces comités civiques et cette Juventud Cruceñas avec, par exemple, des groupes paramilitaires colombiens ou d'autres pays.
No, la verdad no tengo conocimiento si es que hay grupos paramilitares de Cochabamba, de Colombia u otros lugares. O sea, nunca ha habido esa información, nunca se ha dicho de la presencia, nunca se ha sabido de la presencia de estos grupos en Bolivia. Creo que es una organización mucho más interna, sí, más con una intervención, creo, de los Estados Unidos.
Elle ne sait pas, mais apparemment, il n'y a pas d'information qui a circulé à ce sujet. A priori, ça serait plus de l'ordre de l'organisation interne, mais avec un appui réel des États-Unis et de son ambassadeur.
Qui vient d'être expulsé, hein, il y a quelques temps.
De hecho, sí. Después de estos conflictos de los que había hablado, que era la destrucción de documentación de tierras, es que Evo Morales decide expulsar al embajador de Estados Unidos, a Goldberg, porque se sabía que este hombre había tenido injerencia en los conflictos de Kosovo y Yugoslavia. Entonces, tras ver su currículum, se decide pues expulsarlo, ¿no?
C'est donc précisément après les événements de saccage du cadastre en fait à Santa Cruz que Evo Morales décide d'expulser l'ambassadeur nord-américain Goldberg, parce que bon voilà, il y avait des preuves réelles et il fallait simplement regarder aussi son curriculum vitae pour voir qu'il avait un passé en particulier au niveau du Kosovo où il avait attisé la haine raciale et antisémique entre les communautés.
Otros momentos también que han tenido fuertes de oposición estos grupos de la Media Luna es pues el que pasa en Sucre, ¿no? Que van con esta propuesta de que los chuquisaqueños recuperen la capitalía, porque Sucre había sido capital constitucional pues desde que Bolivia es república.
Donc un autre point, un autre type d'activité de ces charmantes personnes, c'est par exemple comment ils arrivent donc à Sucre avec des revendications de récupérer donc la capitale, que Sucre devienne la capitale en fait de la Bolivie, et toute la propagande qu'ils ont mis autour.
Santa Cruz, bueno, va con la idea de que también, o sea, meten la idea en Sucre de que, bueno, también deberían ser parte de lo que es la autonomía, ¿no? Entonces, Sucre se engancha fácilmente a esta propuesta de la autonomía y va a pasar lo que ha pasado, ¿no? Que es una violencia donde el racismo es mucho más fuerte, se ha expresado en Sucre, porque Sucre también es conocida como una ciudad extremadamente colonial. Siempre se ha visto como la ciudad más, no sé cómo puedo decir, como que está la gente más rica por Sucre a nivel de apellidos y todo aquello, ¿no? Muy, muy tradicional.
Donc face à ça, en fait, ces jeunes attisent cette volonté en fait de l'indépendance, des exigences de capitalité, etc. sur Sucre. Les gens de Sucre adhèrent et répondent à ça et s'unissent à ces groupes-là et tombent dans le panneau, quoi, en gros. Et du coup, par rapport aux événements qu'il y a eu donc au mois de mai 2008, les fortes tensions et les violences envers les communautés indigènes, on se retrouve avec avec ce conflit-là dans une région où déjà de toute façon Sucre, ça a toujours été quand même une des villes en Bolivie qui a un lien fort avec le passé colonial du pays. pays. Et on le voit, par exemple, sur les noms de famille ou sur la manière dont la ville est structurée et organisée. Donc, il retombe dans une espèce de nostalgie, entre guillemets, de revendication à ça, en fait. Et donc, il se passe ce qui se passe donc, au mois de mai.
Bueno,
Varinha.
Después de estos conflictos que se tienen con la media luna y después de tanta presión que la media luna ejerce sobre el gobierno de pedir la expulsión de Evo Morales, es que, Evo Morales decide ir a un referéndum junto con los otros prefectos, con los 9 prefectos, para ver si el pueblo quería que él se vaya o se quede, ¿no? En esta misma lógica deberían entrar además los prefectos, ¿no?
Donc après cette période de conflit, mai 2008, Evo Morales décide de remettre son mandat en jeu face à un référendum, mais en disant, si moi je pars, si c'est le peuple qui le décide, les préfets partent aussi, quoi. Donc ils ont mis une réélection globale sur la table, quoi.
Y en esta nueva reelección, pues es Evo Morales... que tiene una mayoría absoluta mucho más que la lograda el 2005. El 2005 él gana con una votación del 53%, en el referéndum llega a un 67%. Y lo más sorprendente es que grupos de la media luna, parte de lo que es la parte del Oriente, Chaco y Amazonía, sube la votación impresionantemente allá, donde habrían los gritos de autonomía, ¿no?
Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'au niveau des résultats, Evo Morales, qui avait gagné avec 53% des voix pour l'élection présidentielle, se retrouve avec 67% des voix sur ce référendum et avec un appui qui fait l'objet d'une forte augmentation, précisément dans ces régions en fait, du Chaco, de l'Amazonie, de la Media Luna. Et donc, il y a un appui encore plus fort de ce côté-là du pays.
Mais il y a quand même 5 préfets qui ont été réélus de sécessionnistes.
5 préfets furent réélus et si 3 se van.
Oui, c'est 5 sont réélus, 3 sont bons, effectivement.
Et le plus impressionnant de ce processus est que les médias de communication qui étaient manejados desde la derecha, qui daban une information en contra du gouvernement, pues no ejercen ningún poder sobre la población. Todo el mundo pensaba que Evo Morales iba a sacar quizás lo mismo o tal vez menos por la propaganda que había en los medios de comunicación.
Y lo que es très étonnant, c'est que malgré la propagande faite par tous les médias qui sont du côté plutôt de l'opposition, on se retrouve avec un résultat surprenant, puisque tout le monde pensait que sur ce référendum, il allait faire au moins la même chose, voire moins, au niveau du résultat. Et ce qui est fort, c'est que malgré toute la propagande avant le référendum faite à la télévision, à la radio, dans la presse, contre Morales, de 53, il passe à 67.
D'ailleurs, il y avait un article historique paru dans Le Monde juste avant l'élection de Paranaguas qui avait dû trop lire les médias boliviens et qui pronostiquait une défaite d'Evo Morales. Et même Paranaguas, correspondant du Monde, qui a fait récemment d'ailleurs un article dithyrambique sur le préfet de Santa Cruz.
Ça fait partie des grandes questions des envoyés spéciaux du Monde sur l'Amérique latine, qui regardent systématiquement comment l'État blanc, cacique, et traditionnel peut se régénérer et rester au pouvoir et qui arrête pas de toute façon orienter l'information contre tout ce qui existe en termes de mouvements sociaux. C'est une tradition du monde, voilà, la presse française. Voilà.
Pero en Bolivia mismo, o sea, muchos decían, este hombre está loco, ¿cómo se va a presentar a un referéndum? Porque si no tiene ni siquiera pisada en ciudades como Santa Cruz, Pando, Evo Morales no podía entrar en estas ciudades.
Y quand même, c'est vrai que c'était quand même gonflé parce que tout le monde pensait qu'il était fou, quoi, de Morales, de se représenter, surtout qu'il n'avait pas d'appui. Vraiment, dans les régions de la Media Luna, c'est allé au casse-pipe, quoi. Donc, ce sentiment-là, quelque part, il était peut-être un petit peu aussi partagé. Les gens pensaient qu'il allait vraiment, vraiment se casser la gueule, quoi.
Nous reprenons l'entretien avec Varinha.
Après donc le résultat de ces référendums au mois d'août dernier, on se retrouve avec un président Morales qui a conforté sa position, puisqu'il a quand même fait nettement plus que lors de son élection présidentielle. Mais on se retrouve aussi avec des préfets sécessionnistes qui ont aussi conforté leur position, se faisant réélire. Et on a donc une situation extrêmement tendue, suite à quoi il y a eu quand même les interventions des pays voisins qui ont un petit peu calmé le jeu, qui ont un peu calmé les ardeurs des préfets sécessionnistes. Mais où est-ce que ça en est à présent de cette guerre déclarée, ouverte entre ces préfets et le pouvoir central là ? Parce qu'ajouté à ça aussi, il y a eu un massacre le 11 septembre, là, du côté de Pando, là, qui était un massacre absolument incroyable de paysans, des indigènes qui se sont fait tirer comme des lapins par des milices.
Bueno, en este momento la... Yo creo que ha bajado un poco el conflicto, más bien.
¿El conflicto un poco redescendió en tensión?
Sí, los prefectos más bien están un poco calmados, porque antes del referéndum y todo ello se sentían muy seguros. Pese a esto, ha habido pues esta matanza a la que tú haces referencia, que ha sido en Pando, cuando los indígenas tenían un cabildo en una de las regiones.
Là, en fait, ça redescend parce que, en fait, avant le référendum, les préfets se sentaient vraiment très forts. Et là, bon, du coup, quand même, avec les résultats, ils voient que, effectivement, c'est pas le cas. Mais par rapport à l'exemple dont tu cites, concernant ce massacre du 11 septembre, effectivement, là, il s'agissait, en fait, de paysans qui partaient à une assemblée, en fait, une réunion.
Bueno, y ahí este conflicto justamente con el prefecto, que él manda a sicarios, porque no hay otra palabra, los cazaron en el río cuando los indígenas estaban escapando.
Incluso... Y sachant ça, en fait, bah, le préfet, sachant qu'il y avait cette réunion, ce congrès en fait qui se réunissait, il a envoyé donc les sicarios, qui est un terme voilà, utilisé beaucoup en Colombie, mais bon, voilà, il envoie des tueurs, quoi. Et donc, qu'ils les ont chassés comme des bêtes, et en particulier quand ils ont voulu s'échapper en traversant le fleuve où ils sont fait tirer dessus comme des animaux, quoi.
Le bilan provisoire de cette embuscade qui a été tendue par ces groupes paramilitaires contre les paysans indiens fait état de 30 morts, d'une cinquantaine de blessés, et le nombre de disparus dépasse la centaine.
Es impresionante ya que en esta región Varinha. Las cosas siempre han sido arregladas de esta manera.
C'est impressionnant comment dans cette région toutes ces genres de situations se règlent de cette manière-là.
Y el prefecto pues ha estado años de años gobernando el lugar bajo armas. Él es el que es el propietario de la mayoría de las tierras.
Le préfet en fait a toujours géré les conflits et les situations de ce type par les armes, parce que lui-même en fait c'est le principal propriétaire de la grande partie de ces terres-là, quoi.
Pero mismo así, por ejemplo, si se ve las elecciones de referéndum, Evo Morales ha ganado ahí por el sí en Pando.
Y cuando on voit les élections donc du référendum, Morales ha gagné dans cette région du Pando.
Porque yo creo que la gente pues ya está cansada también de todo esto, ¿no?
Les gens sont fatigués de tout ça, quoi.
Bueno, el prefecto de este departamento pues ha ido a la cárcel.
Le préfet accusé donc est là est actuellement encore en prison.
Lastimosamente lo agarraron, lastimosamente digo porque todavía no hay una presencia real del Estado en estas regiones. Lo sacaron con engaños diciendo que iban a una reunión, lo pusieron en un avión y lo trajeron hasta La Paz y lo encerraron en la cárcel.
En fait, bon, ça s'est fait de manière un peu étrange, c'est-à-dire que l'arrestation s'est pas fait de manière traditionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, ils lui ont plus ou moins tendu un piège. En prétextant une réunion et quand il est descendu de l'avion à La Paz en direction l'atoll.
Pero lastimosamente ahora también ha habido un habeas corpus, que es un término de los abogados, pidiendo la salida de este prefecto de la cárcel. Y justamente se ha hecho esto en Sucre, donde funciona el aparato legislativo, y de 5 personas han votado 3 en que este hombre sale y dos que se quede.
Le problème, c'est que le jugement, et ça c'est très dommage, de cet homme, se passe à Sucre. Parce que c'est là, en fait, que le pouvoir judiciaire exerce. Et ses avocats invoquent une possible amnistie. Et donc, c'est passé en jugement. Et a priori, donc, 3 contra 2, non ?
3 voix contre 2,
ça a été accepté. Donc, il est toujours en prison, mais il risque de sortir.
C'est pas exactement une amnistie, c'est la disposition légale, juridique de l'habeas corpus, qui n'est pas l'amnistie. Alors, je me souviens plus exactement les termes, mais c'est différent, c'est-à-dire que le corps doit être libéré pour après venir en présence au moment du jugement. Ça fait partie des trucs anglo-saxons. La Bolivie est un pays anglo-saxon.
Et au point de vue des mouvements sociaux qui ont porté Morales au pouvoir, comment ils réagissent, où est-ce que ça en est, est-ce qu'il y a des divisions, quel est l'état de combativité de ces mouvements sociaux?
Bueno, están mucho más organizados ahora. Después de la elaboración del documento del nuevo referéndum para la Constitución, por ejemplo, se ha visto cómo después de la elaboración han venido en marcha hasta La Paz.
Ces mouvements-là, en fait, sont beaucoup plus forts et beaucoup plus organisés, beaucoup plus structurés, en particulier depuis la fin de la rédaction de ce projet de cette constitution.
En esta constitución, bueno, la que fue elaborada en Sucre, donde se trataban temas tan delicados, ¿no? Como es la de los hidrocarburos, la nacionalización de los hidrocarburos, la posesión de las tierras y, sobre todo, la elección. Una que los presidentes pues puedan volver a ser reelectos.
cette structuration, cette organisation, elle s'est vue dans cette grande manifestation en fait, qui s'est faite à La Paz dernièrement pour présenter donc au vote du Sénat cette nouvelle constitution. Avec donc ces points en particulier, donc touchés sur la question de la constitution, qui sont toujours et encore la question des hidrocarbures.
Es en esta manifestación que ha sido encabezada por el propio presidente que partió de Caracollo, estaban no solamente organizaciones como los cocaleros.
Donc dans cette grande manifestation que Morales donc a pris en tête, donc ben est parti du sud de la capitale pour remonter en fait jusqu'au centre.
Vinieron también gente de las minas como Potosí, la parte de las minas también de los Yungas, una gran organización de mineros privatizados, sindicalistas.
Donc là, donc à cette manifestation, se sont regroupés des syndicalistes, des cocaleros, des gens en fait issus du milieu de la mine et des représentants en fait de différents secteurs.
Y lo más interesante es que han venido pueblos indígenas de Pando, donde había este conflicto, donde hay los 13 muertos.
Exactement. Et ce qui était très intéressant, c'est que pendant cette manifestation, des groupes indigènes précisément venant de ces régions des conflits du Pando sont aussi venus à cette grande manifestation.
Ha sido una marcha de cerca de 70.000 personas entre indígenas, clase media.
C'est une manifestation regroupant 70.000 personnes et tout horizon différent, indigènes, classe moyenne.
Y que bueno, llegando hasta la plaza Murillo donde están todos los poderes del Estado, han hecho vigilia haciendo presión al Senado para que aprueben la ley al referéndum de la constituyente.
Et quand ils sont arrivés donc à la place Murillo, qui est la place qui regroupe donc les pouvoirs centraux donc de à La Paz, ils sont restés en vigilance permanente pour exercer une pression sur les sénateurs qui étaient à l'intérieur donc des bâtiments, quoi.
Esta vigilia ha durado pues toda una noche y todo un día.
Cette surveillance a duré toute une nuit, toute une journée.
A la cabeza de Evo Morales, quien estaba también en la vigilia, exigiendo que se apruebe, que el Senado apruebe la ley para el referéndum a la constituyente.
Avec toujours en tête donc Evo Morales, qui a participé donc à cette surveillance, à cette pression, pour exiger donc du Sénat l'acceptation en fait de cette constitution.
El Senado no quiso, bueno, habían dos puntos que eran los puntos de conflictos en esta constituyente. Una que es la reelección del presidente, lo que había dicho anteriormente. Un presidente para ellos no puede estar más de 10 años. No puede haber triple reelección del presidente. Sí puede ir dos veces a la reelección, pero después de esto no puede ir más. Otro punto también era la segunda vuelta, que es una figura que no hay dentro de las elecciones presidenciales.
Là, il y a un point dans cette constitution qui continue et qui a chopé, en fait, qui a été sujet à discussion, à attention, c'est la question de la réélection possible du président et la question du second tour, puisque pour ces élections, les raisons dont on a parlé tout à l'heure, il n'y a pas de second tour qui existe, mais sinon ce principe de coalition.
Limiter la réélection du président à uniquement deux mandats et non pas trois.
Y el otro punto, pues, era esto de las tierras, ¿no?
La question de la terre.
Que era la revisión de las tierras. ¿Cómo es que justifican el hecho de tener tanto territorio, sobre todo estos terratenientes que están asentados en la parte de Santa Cruz, Pando y la parte del Chaco?
Et puis l'autre point, donc c'est ça, donc la question de la terre, sur comment justifier, comment expliquer aujourd'hui que voilà encore cette répartition se fait de cette manière, donc sur les grands propriétaires terriens. Donc c'est cette problématique qui est aussi abordée dans la constitution.
Lastimosamente, este es un punto en el que ha perdido un poco el gobierno. La presión al interior ha sido muy fuerte. Se dice que no va a haber una revisión retroactiva, es decir, de la posición de las tierras de aquí para atrás, sino de hoy en adelante.
Là, c'est un point que le gouvernement a un petit peu perdu en force, parce qu'en fait, il semblerait que ce qui risque de se passer, c'est que la révision de la répartition des terres se fasse pas de manière rétroactive, mais d'aujourd'hui en allant vers le futur, vers l'avenir. Donc en fait, il n'y aura pas de prise en considération de le fait qu'il y a certaines terres qui appartenaient, surtout sur la question des expropriations en fait. Donc ça risque d'être difficile peut-être pour certaines personnes à un moment de justifier qu'elles étaient propriétaires de terres et qu'elles se sont fait approprier. Ils sont un peu en difficulté par rapport à ça. À l'intérieur, il y a eu beaucoup de pression.
Pero bueno, después del 6 de enero que vamos a elecciones para la constituyente, se cree que pueden haber modificaciones todavía a esta nueva ley, ¿no? Y que puede ser que ahí haya alguna forma de arreglar este...
Mais bon, voilà, ils pensent qu'après le 6 janvier, donc qui est une date importante, puisque ça sera à ce moment-là que le référendum se prononcera sur cette constitution, ils espèrent qu'après ça, ça pourrait être retravaillé et que par le biais de lois, en fait, on puisse revenir sur ce sujet-là et améliorer ce point, quoi.
Rien de prévu dans la Constitution sur les pouvoirs des préfets, par exemple, et sur une possibilité d'une autre organisation démocratique au point de vue local ou...
Non, non, il y a une révision, salvo. Bueno, en la Constitution, se está exigiendo una autonomía regional y no departamental como estaban planteando los prefectos, ¿no?
Que non, la seule chose c'est qu'en fait la constitution prévoit du coup plutôt une autonomie de région plutôt qu'une autonomie de département comme le réclamait ces préfets, quoi.
Como los prefectos estaban exigiendo en su momento, ¿no? El gobierno plantea que no haya una descentralización total del Estado, ¿no? Que el Estado tiene que ser un poco el veedor de la administración de las riquezas de cada región, ¿no?
La répartition, en fait, doit se faire quand même avec un contrôle de l'État. Ils sont pas contre l'idée d'une forme d'autonomie régionaliste, mais sur les points sensibles qui ont été évoqués, l'État reste et doit rester mettre à bord, quoi. La terre, l'eau, les hydrocarbures, la question indigène, tous ces éléments-là, toutes ces prérogatives-là doivent rester de la question de l'État, quoi.
Justement, au niveau des hydrocarbures, de l'eau et tout ça, ça a été pris par les multinationales étrangères. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là maintenant?
Sí, de hecho, uno de los surgimientos también de los movimientos sociales es el problema de la guerra del agua en Cochabamba. Es ahí que se expulsa una transnacional francesa, ¿no? Aguas del Tunari que estaban ejerciendo pues allá, ¿no?
Et c'est effectivement un point qui a été à l'origine aussi de forts mouvements sociaux, hein, dont la guerre de l'eau en 2003, qui à Cochabamba, donc qui a foutu à la porte en fait l'entreprise française, la Lyonnaise des Eaux, donc qui était en gestion de cette ressource-là. Et donc ça a été récupéré en fait.
Bueno, a partir de esto surgen, por ejemplo, otros movimientos también en la ciudad del Alto, en La Paz. Que también recuperan, nacionalizan lo que es el agua. Entel, por ejemplo, que estaba en manos de transnacionales italianas, también ha sido nacionalizado.
La cuestión de l'eau, elle s'est jouée aussi sur la ville de El Alto, où ça a été récupéré et nationalisé, mais il y a un autre secteur qui est la télécommunication, et l'entreprise Entel, qui était jusqu'à il n'y a pas longtemps entre les mains de multinationales italiennes, a été nationalisée.
Y en la cuestión de los hidrocarburos, por ejemplo, antes de la nacionalización, el petróleo, el gas, solamente nos pertenecía debajo del suelo. En boca de pozo, que es como ellos llaman, era que pertenecía ya a las transnacionales, ¿no? Entonces, después de la nacionalización ha habido una apropiación de lo que es ya pues los hidrocarburos, ¿no?
Sur la question des hydrocarbures, avant la récente nationalisation, la propriété de la Bolivie s'arrêtait au sous-sol, mais s'arrêtait là. Ce qui était en sortie depuis appartenait donc à la multinationale et exploitante. Et là, c'est donc maintenant, c'est différent. Ça a été récupéré, ça a été repris dans le cadre de la nationalisation, dans sa globalité.
Ha habido una recuperación, además, un poco simbólica. Evo Morales, juntamente con el ejército y las organizaciones sociales, hizo presencia en el Chaco, en las petroleras, recuperando toda la infraestructura de la explotación, principalmente del gas y del pétrole, ¿no?
Bueno, dans la région du Chaco, par exemple, sur la récupération d'exploitations liées au gaz et au pétrole, ça s'est fait donc avec la présence d'Evo Morales et de l'armée, des mouvements sociaux qui se sont déplacés, qui sont allés jusqu'à là-bas et qui ont mis pression en étant là présent physiquement pour récupérer en fait les infrastructures.
Continue l'entretien avec Varinha en lui demandant quelles grandes réformes Evo Morales a pu mettre en place depuis son élection et quels sont les acquis et les changements intervenus dans la vie quotidienne des Boliviens.
Bueno, después de 2 años de gobierno de Evo Morales, yo sí creo que hay muchas reformas, además de las que ya hemos hablado, ¿no?
En partir de ces 2 ans-là, il y a, en plus de tous les points qui ont été abordés, beaucoup de réformes qui ont été réalisées.
Una de las principales, yo creo que es la reivindicación de los indígenas, ¿no? El reconocerse como indígenas, ¿no? Yo soy aymara, yo soy quechua, yo soy guaraní. Además, tengo un presidente indio, ¿no?
Un des premiers points qui lui semble important, c'est la question de la reconnaissance. La reconnaissance identitaire, la reconnaissance des peuples indigènes. Et en disant, voilà, ben, je suis aymara, je suis quechua. Et en plus, j'ai un président qui me ressemble.
Otro de los puntos importantes también es los beneficios sociales que el gobierno ha tenido en estos 2 años, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la salud y de la educación.
Un autre point important, c'est tout ce qui a été rendu possible au niveau de l'éducation et les questions sanitaires et sociales.
Esto ha sido gracias, por ejemplo, a las alianzas con Cuba. Venezuela, han venido muchos médicos cubanos, por ejemplo, y han llegado a lugares donde lastimosamente los médicos bolivianos no llegaban, a comunidades tan alejadas donde no había médicos, ¿no? Y en la misma ciudad donde la población es tan grande, también en lugares tan pobres, donde no había presencia de la medicina, ¿no?
Cette question-là, du coup, a été rendue possible avec des alliances avec Cuba et le Venezuela, en particulier sur la question des médecins qui ont pu intervenir et qui interviennent dans les endroits où les médecins boliviens n'y étaient pas, que ce soit bon, dans les campagnes ou même dans certains endroits des villes plus difficiles.
Y lo mismo con la educación, ¿no?
Pareil avec l'éducation.
Este año supuestamente se va a llegar a un índice mucho más bajo de analfabetismo también, ¿no?
On espère voilà arriver à un indice moindre cette année concernant le problème de l'alphabétisation.
Otro punto importante es también el hecho de estar combatiendo contra la corrupción, ¿no? Bolivia siempre ha sido el Estado, ha sido siempre un Estado corrupto, ¿no?
Un autre point, c'est combattre contre la corruption, parce que la Bolivie a toujours été connue pour être un des pays les plus corrompus.
Bueno, sabemos que es un proceso también, en dos años no se puede evaluar un gobierno. Falta mucho más tiempo para ver qué es lo que pasa, cuáles los productos de estas nuevas reformas que están habiendo, ¿no?
Bon, elle a conscience que de toute façon, en deux ans, tout ne peut pas se faire. C'est un processus qui est long et que beaucoup d'espoirs sont mis justement dans ces projets de constitution pour voir à long terme les fruits que ça va donner.
Y lo interesante también es que la gente está consciente de esto, ¿no? Saben que no pueden exigir en este momento más ahorita al gobierno. Los movimientos sociales están apoyando en este sentido, lo mismo que la clase media y, bueno, el referéndum es una muestra de esto, ¿no? El creciente apoyo a Evo Morales y al proceso en que estamos viviendo, ¿no?
Ce qui est fort et ce qui est aussi intéressant, c'est que le peuple a conscience qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander plus au gouvernement. Ils le soutiennent, ils l'appuient, les mouvements sociaux sont avec Morales, y compris la classe moyenne. Mais voilà, l'exemple du prochain référendum du 6 janvier 2009 illustre que, bon, quand même, voilà, ça avance.
Et sinon, du côté des forces armées, il n'y a pas d'inquiétude à avoir ou...
Non. Lo interesante, yo creo que en el gobierno de Evo Morales ha sido su gobierno al lado del ejército también, ¿no?
Lo que es interesante es que Morales, il a réussi à construire son projet de gouvernement avec l'armée.
Evo Morales ha tenido un control sobre el ejército y la policía, y esto se ve, por ejemplo, en los conflictos donde Evo Morales ha pedido que no haya ni una sola bala de parte de ni de la policía ni del ejército hacia el pueblo.
Il a réussi à avoir un contrôle réel des forces armées et de la police, et ça s'est vu concrètement dans la manière dont les conflits sociaux et ceux de Sucre en particulier ont été gérés.
Y lo mismo en Pando, ¿no? De hecho, todos los muertos que han habido en todo el proceso de Evo Morales ha sido siempre generados por la ultraderecha, ¿no?
Tous les morts, en fait, issus de ces conflits, en fait, ne viennent pas de l'armée ni de la police, mais des groupes d'extrême droite.
Esto ha sido por el pedido muy fuerte de Evo Morales a decir que por favor el ejército y la policía no intervengan en este sentido, ¿no? Sí, protegiendo a la gente y todo aquello, pero no lanzando ni una sola bala.
Et ça a été une épreuve qui illustre justement ce point-là par rapport au fait que Morales, face à ces conflits, a ouvertement exigé et demandé à l'armée et à la police de ne pas tirer une seule balle. Et c'est ce qui s'est passé.
En Sucre, por ejemplo, hay un momento cuando el 24 de mayo, cuando Evo Morales está entregando las ambulancias a los indígenas allá, como la población que va a agredir a los indígenas primero lo hacen con la policía, que los acorralan y los suben a buses para sacarlos, ¿no?
Ça s'est vu aussi à Sucre en particulier quand Morales venait remettre aux communautés indigènes une série d'ambulances. Les gens de Sucre, donc de la ville, c'est même là qui ont agressé dans un deuxième temps les paysans indigènes qui étaient venus pour soutenir Morales sur cet acte un petit peu officiel. Ce sont les mêmes qui ont foutu dehors de la ville les groupes de police qui étaient là pour assurer le maintien de l'ordre et la sécurité du président. C'était voilà, une garde un peu officielle, rapprochée, et donc c'est même là qui les ont pris, qui les ont mis dans les bus pour les faire partir.
Yo creo que ese es un punto a su favor, porque antes de Evo Morales habíamos pasado lo que les había comentado el gobierno de Goni, que antes de irse pues deja 69 muertos. La policía y el ejército va con todo el armamento en contra de gente que no estaba armada, ¿no?
Et cet acte en fait de non-violence exigé de la part du président vis-à-vis de la police, c'est tout à son honneur, parce que c'est en rupture totale avec la tradition dictatoriale que le pays a connue, ou précisément, si ça avait été un cas comme ça à ce moment-là, qui s'était avéré, on aurait été certainement un bain de sang, puisque l'armée aurait intervenu.
Il faudrait que par derrière, il y ait quand même un pouvoir judiciaire qui puisse punir les coupables, hein. Ce qui est loin d'être gagné en Bolivie. Apparemment, quand même, le pouvoir judiciaire est extrêmement à la fois corrompu et réactionnaire.
es corrupto y bueno, muchos de los que cometen, por ejemplo, atropellos en Bolivia, lo que hacen es escapar de Bolivia para no cumplir condena. Es lo que ha pasado con Goni. Una vez que renuncia, él pues no pasa ni 5 minutos y estaba en el avión escapando con los más allegados a Estados Unidos.
Ouais, c'est beaucoup de corruption au sein de ce pouvoir judiciaire. Et de toute façon, bon, encore, ceux qui commettent des actes illégaux, arrivent à partir très rapidement du pays. C'est ce qu'ils font. Ils s'en échappent. L'exemple avec Goni, qui, après le massacre qu'il a commandité en 2003, dans les 10 minutes, il était dans un avion et il était déjà parti. Donc, il n'y a pas de jugement.
Et luchar justamente contre esta corrupción es difícil, ¿no? Tenemos una trayectoria de años y años y años que, pues, limpiar todo esto, pues, va a ser difícil. Es un proceso muy largo.
Il faut lutter, il faut se battre contre ça, mais c'est difficile. Parce que la Bolivie revient de loin, il y a un passé très lourd, et il faut en fait tout refonder, quoi, tout reformer. Et c'est évidemment la question judiciaire, un des gros, gros chantiers qui attend le pays, quoi.
C'est une des chances, principales chances d'Evo Morales pour l'instant, c'est quand même un contexte international assez favorable avec pas mal de pays quand même qui bougent en Amérique du Sud, avec le Venezuela entre autres, Coréa, le Brésil aussi qui s'y met un petit peu. Il y a quand même une convergence, une dynamique nouvelle qui semble s'enclencher et qui a fait que les préfets, par exemple, ont été tout de suite marginalisés par l'ensemble des pays. Même le Chili, qui est très proche des États-Unis, a quand même clairement soutenu Morales contre les préfets. Donc c'est quand même, a priori, peut-être la meilleure des garanties pour l'instant pour Morales de pouvoir continuer. Et puis l'élection de Obama c'est pas la pire des choses. Donc c'est moins pire que McCain.
Ça on verra, mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est que jusqu'à présent, les États-Unis empêtrés en Afghanistan et en Irak ont un peu oublié l'Amérique latine, ce qui est toujours une bonne chose quand les États-Unis oublient l'Amérique latine pour l'Amérique latine.
De hecho, que cuando han pasado todos estos conflictos, por ejemplo, todo lo que es el Cono Sur, con la representante Bachelet de Chile, pues lo expresaron un apoyo abierto al gobierno de Morales, ¿no?, contra lo que estaba pasando. Pese a que la propaganda y el de la derecha, por ejemplo, de la Media Luna, querían ir a la ONU diciendo que, bueno, había una dictadura a partir de Evo Morales.
Ça, effectivement, c'est un fait. C'est un fait qu'il y a un appui, un soutien international qui a été ouvertement appuyé quand les pays du Cône Sur se sont retrouvés au Chili. Et ça a tordu le cou, y compris des revendications qu'avaient les préfets de la Media Luna qui étaient prêts à aller jusqu'à l'ONU pour dire qu'ils vivaient une dictature.
On reprend l'entretien avec Varinha au sujet de l'autonomie indigène. Un des intérêts d'avoir élu un président amérindien n'est-il pas que les communautés indigènes puissent conserver ou se réapproprier un pouvoir de décision qu'un gouvernement central et autoritaire tente de leur confisquer depuis plus de 500 ans?
Bueno, esperemos que sí, ¿no? De hecho, el gobierno está consciente de aquello, ¿no? O sea, muchas de estas posesiones, por ejemplo, de las tierras, principalmente en Oriente, son comunitarias, ¿no? No son de indígenas individuales. Lo que se está exigiendo es que la tierra se devuelva a la comunidad, a grupos indígenas como chimanes, guaraníes, que no tienen una posesión individual de la tierra, sino más bien ellos conciben la disposición comunitaria, ¿no?
Oui, elle espère effectivement que ça soit bien dans la tête du gouvernement. Mais de toute façon, ça se verra, c'est déjà en chantier par rapport à cette question de la répartition des terres. Parce que là, aujourd'hui, la question, c'est que les terres soient rendues aux communautés et qu'elles ne soient pas gérées de manière individualiste comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, et c'est forcément, du coup, un élément qui va dans le sens, justement, de plus d'autonomie, de participation vis-à-vis des communautés, sur cet exemple de la terre, quoi.
Ya en los 90, por ejemplo, surgieron las primeras marchas, las conocidas marchas por la tierra y por la vida de estas comunidades, principalmente del Oriente, Chaco y Amazonía, donde exigían un reconocimiento territorial, pero al grupo, ¿no? Cosa que nunca se solucionó.
Cette revendication-là, elle date pas d'aujourd'hui. Déjà, dans les années 90, il y a eu des protestations, des revendications pour une réattribution des terres. Mais depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été traité. Aucune réponse a été apportée, quoi.
Ça a été une revendication des peuples indigènes à travers toute la terre, hein, de la propriété collective contre la propriété des individus.
Sí, de hecho que sí, es una reivindicación totalmente grupal de los indígenas y no individual sobre la tierra, ¿no? Para concluir un poco, ¿no? Decirles que estamos viviendo un proceso nunca antes pensado, soñado en Bolivia.
Pour conclure, on peut dire qu'on est en train de vivre une expérience, un processus qui n'avait jamais eu lieu jusqu'à maintenant en Bolivie.
Porque es algo totalmente diferente ver un presidente que está con los movimientos sociales, que está con las bases, un poco ejerciendo sus demandas, ¿no?
Et pour la première fois, on se retrouve avec un président qui se retrouve du côté des mouvements sociaux et qui travaille en fait pour répondre à ses attentes.
Cosa que antes no había pasado, ¿no? Y por primera vez también, bueno, vamos a ver una refundación del Estado. Es un indio que está refundando nuestro país, que está poniendo, que van a poner las nuevas leyes de la Constitución política.
Et pour la première fois, c'est un Indien qui est en train de refonder le pays. Et qui est en train de reposer de nouvelles bases pour ce pays-là.
Que esperemos que también estas nuevas leyes pues vayan en favor de los que siempre han sido los más desprotegidos de mi país, ¿no? Principalmente los pueblos indígenas, esta variedad de pueblos indígenas que tenemos en Bolivia, ¿no? Sobre todo los del Oriente que han sido los más maltratados, ¿no?
Et elle espère très fort que ces changements, ces nouvelles lois vont aller dans le sens d'une protection des plus faibles et de ceux qui en ont le plus besoin, en particulier en direction des communautés indigènes et de la partie orientale et paysanne, ouais, qui ont le plus souffert.
Il y a un racisme non seulement contre les Indiens, mais aussi qui se mélange en plus d'un racisme contre les paysans. Alors, et c'est très fort, ça c'est très bien vu là du côté de Sucre et... Du côté du massacre du 11 septembre aussi.
Sí, esperemos también que esta figura cambie. O sea, hay que reconocer también que a partir de este gobierno hay un fuerte racismo, cosa que antes era muy subterráneo en Bolivia, ¿no?
On espère que cette donne, effectivement, va changer parce que on voit bien qu'il y a une résurgence de quelque chose qui était souterrain, latent, mais qui montre que depuis qu'on a un président indien, effectivement, il y a un racisme qui est là, quoi.
Es que yo creo que es también a partir de que es inconcebible de que para la gente en Bolivia que antes manejaba el Estado sea un indio ahora el que esté gobernando.
Ça reste quand même quelque chose d'assez fort de penser qu'aujourd'hui, avec toute l'histoire de la Bolivie, que oui, c'est un Indien qui dirige ce pays, quoi.
Además son indígenas del Oriente, del altiplano, que están cambiando las leyes también del Estado, ¿no? Es algo que pues no cuadra bien dentro de las viejas estructuras.
Que ce sont ces mêmes indiens de l'altiplano ou de l'Orient, c'est ces mêmes personnes qui sont en train de refonder le pays et en train de préparer un nouveau projet pour la Bolivie.
Y bueno, la población también está consciente de que esto... va a seguir, bueno, el racismo sí va a seguir, al paso que vamos va a continuar, pero también está consciente de que hay que apoyar este proceso, de que en este momento pues no nos queda otra también, ¿no?
Et la population sait que ce racisme va encore durer, va se passer du temps encore, mais que quoi qu'il se passe, il faut appuyer, il faut soutenir cette initiative-là, ce gouvernement en place.
Sabemos que va a haber una nueva reelección también del presidente y yo creo que esta vez el apoyo va a ser mucho más grande todavía. Así que esperamos que sea.
Voilà, on sait qu'il y aura de nouvelles élections et que ce qu'il en sortira, ça sera encore un appui plus fort et plus grand à Morales, et c'est ce qu'elle espère très fort.
Merci à Varinia et à Eric pour la traduction. Eric de l'association ECLA, Échange culturel latino-américain. C'était Indios Presidente avec Varinia, décembre 2008, une émission proposée par Radio Zinzine. Pour renseignements sur l'association ECLA, vous pouvez les contacter au 19 rue Tivoli, 13005 Marseille. Et vous pouvez écrire 158 allée de Charmanche, 38920 à Crolles. Ou téléphoner au 09 52 50 28 60 ou 06 09 81 47 07. Vous pouvez aussi aller sur leur site http assoeclat, donc assoeclat.free.fr. Cette émission est naturellement disponible auprès de Radio Zinzine sur CD. Pour cela, vous pouvez nous écrire à Radio Zinzine 04300 Limans, LIMANS, pour 10 euros frais de port inclus. Et pour tout renseignement sur Radio Zinzine, vous pouvez consulter notre site internet www.radiozinzine.org.